France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on commencera avec un mauvais départ, celui de Friedrich Merz, lequel a échoué ce matin à se faire élire chancelier au premier tour de scrutin. Un échec sans précédent dans l'histoire récente de l'Allemagne, signe de l'immense pression à laquelle est aujourd'hui confronté le conservateur qui s'apprête à diriger un pays fragilisé par les crises. On verra par ailleurs comment les promesses d'ouverture du nouveau gouvernement en Syrie se heurtent décidément à la dérive inquiétante de son chef dans sa consolidation du pouvoir. Et puis l'actualité en France, on détaillera tout d'abord comment la SNCF a prévu de contourner la grève pour permettre à ses usagers de profiter pleinement du pont du 8 mai. On reviendra également sur le nouveau rapport de la Défenseure des droits sur les discriminations rencontrées pendant les parcours de soins. Enfin, à l'occasion de l'examen aujourd'hui d'une proposition de loi pour lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, on se demandera jusqu'à quel point ce texte constitue ou non un recul écologique. On posera la question à notre invité. Souvent qualifié d'homme du passé, c'est pourtant sur lui qu'est censé reposer à l'avenir l'espoir d'affronter les nouveaux défis auxquels son pays est confronté, sortir de la stagnation économique, se réinventer sous la menace d'une extrême droite toujours plus présente et donner un nouveau souffle diplomatique à une Europe en quête de puissance. En Allemagne, c'est aujourd'hui que le conservateur Friedrich Merz devait donc être intronisé chancelier par les députés à la tête d'un nouveau gouvernement de coalition, sauf qu'avant même de pouvoir seulement essayer de démontrer sa capacité à diriger, la tâche s'annonce compliquée. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin, après que le bloc conservateur eut scellé un accord de coalition avec les sociaux-démocrates, il était attendu que les parlementaires approuvent ce matin la nomination de Friedrich Merz comme chancelier. Or, à la surprise générale, celui-ci n'a pas obtenu la majorité requise pour être élu au premier tour de scrutin. Une humiliation.
Ah oui, effectivement, Thomas, c'est un scénario complètement inattendu qui s'est joué ce matin. Jamais un chancelier dans l'histoire de l'Allemagne n'avait échoué au premier tour de scrutin. Mathématiquement, ce vote aurait pourtant dû être une formalité pour Friedrich Merz. Il pouvait compter sur 328 voix, celle de son propre camp, la CDU, et celle des élus SPD, les partenaires sociaux-démocrates de sa coalition. Mais il n'en a finalement obtenu que 310. Il rate donc la majorité. Impossible de savoir quels élus ont fait défection. Le vote est à bulletin secret, mais c'est une humiliation pour Merz. Tête basse, visage fermé, et une très mauvaise surprise pour la députée conservatrice Inge Grässle, que je viens de joindre.
C'est un choc et c'est un désastre. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Je suis vraiment ébahie. Ce n'est pas une bonne idée de la part de certains collègues de nous infliger ce résultat. Ça déclenche une crise politique. C'est un vrai désastre pour la démocratie.
Un désastre qui s'est produit sous les yeux de l'ancienne chancelière Angela Merkel. Il va y avoir maintenant un deuxième tour de scrutin. Il pourrait avoir lieu demain ou vendredi. Mais les dirigeants de l'extrême droite arrivés en deuxième position aux législatives de février voient les choses autrement. Alice Weidel, la coprésidente de l'AfD, réclame tout simplement le départ de Friedrich Merz.
Nous, l'alternative pour l'Allemagne, nous sommes engagés pour remettre ce pays sur pied. Nous sommes prêts à assumer la responsabilité gouvernementale et nous demandons de faire preuve de bon sens. Monsieur Merz devrait démissionner immédiatement et la voie devrait être ouverte à de nouvelles élections dans notre pays.
Appel à la démission de Friedrich Merz, bien peu probable. Comme le prévoit la Constitution, Olaf Scholz assure l'intérim à la chancellerie après ce faux départ pour Merz qui était attendu demain à Paris par Emmanuel Macron.
Merci Sébastien Baer, en direct de Berlin.
La Russie a été visée la nuit dernière par une centaine de drones ukrainiens.
Les frappes ont ciblé notamment Moscou sans faire de victimes et sans doute que la symbolique du calendrier n'est pas anodine puisqu'à l'occasion des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie, la capitale russe doit accueillir ce vendredi une grande parade militaire en présence de Vladimir Poutine et d'une vingtaine de dirigeants étrangers. Y avait-il une autre issue possible à la stratégie de guerre totale menée par Israël en représailles à l'attaque du 7 octobre que de conquérir à terme la bande de Gaza? Toujours est-il que l'annonce par le gouvernement de Benjamin Netanyahou d'un plan ouvrant la voie à un contrôle par l'armée de l'enclave palestinienne en même temps que le déplacement interne forcé de la plupart de ses habitants marque un tournant encore plus martial et dans ces conditions, eh bien, les négociations pour une trêve n'ont plus d'intérêt à ce stade, estime aujourd'hui le Hamas. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères a dit ce matin condamner très fermement ce plan israélien de conquête de Gaza.
Le nouveau président intérimaire en Syrie, Ahmad al-Shara, au pouvoir depuis la chute de Bachar al-Assad, sera reçu demain par Emmanuel Macron pour sa première visite en Europe.
L'annonce a été faite ce matin par l'Élysée qui dit vouloir profiter de cette rencontre pour redire le soutien de la France à la construction d'une Syrie à la fois libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société. Or, non seulement les récents massacres commis contre les Alaouites et les Druzes soulèvent des doutes sur la capacité des nouvelles autorités à contrôler certains combattants extrémistes qui leur sont affiliés, mais la dernière décision de la coalition islamiste pour consolider son pouvoir n'est pas franchement de nature à présenter un visage rassurant de son chef, Ahmad al-Shara, qui vient de procéder à des nominations pour le moins controversées, les précisions de Marie-Pierre Véraud.
Des signaux d'alarme pour les milieux progressistes syriens. D'abord, cette décision de ressusciter une institution de l'ère Assad, l'autorité centrale de supervision et d'inspection. Elle permet de contrôler les ministres et leurs actions. Les promesses d'ouverture, promesses remplies avec notamment la nomination d'une femme, de représentants chrétiens ou alaouites, de membres éminents d'ONG, ces ministres d'ouverture se voient donc placés sous tutelle. Mais plus inquiétante en effet est la nomination comme commandant de la 86e division de l'armée d'un chef de guerre sanctionné par les États-Unis. Un mafieux dont les milices se sont rendues coupables de très graves exactions, notamment des meurtres de civils documentés, exécutions sommaires, trafic de femmes et d'enfants, yézidis, la liste est longue. Abu Atem Chakra commandera la région de Raqqa et le nord-est syrien. Or, sa milice est rapidement devenue un outil entre les mains de la Turquie pour combattre les Kurdes de Syrie. Il est notamment responsable du meurtre d'une femme politique kurde en vue en 2019. Et sur place, personne ne l'a oublié. De quoi jeter une ombre sur les discussions ouvertes entre le gouvernement central et les Kurdes, auxquelles la France porte une attention particulière. Même les plus fervents soutiens du nouveau président syrien estiment que ces dernières décisions sapent la crédibilité qu'avait difficilement conquise le président al-Sharaa.
Midi passé de 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Y aura-t-il des trains pour franchir sans encombre le pont du 8 mai? Oui, assure ce matin le PDG de la SNCF appelant les clients à ne pas annuler leurs réservations. Tous les départs vont bien se passer puisqu'il n'y aura quasiment pas de grève mercredi et jeudi et il y aura un train dimanche pour ramener tout le monde, affirme Jean-Pierre Farandou. Alors comment celui qui refuse par ailleurs de répondre à la demande des syndicats d'augmenter les salaires peut-il être aussi certain que l'appel à la grève n'aura que peu de conséquences sur les usagers? Tout simplement, Hakim Kasmi, parce que l'entreprise ferroviaire peut faire appel à ses cadres pour remplacer les grévistes.
Oui Thomas, pour faire rouler ces TGV ce week-end, la SNCF compte sur ses cadres, des cadres qui ont été formés pour remplacer les contrôleurs grévistes, des méthodes que dénoncent les syndicats, mais qu'assume Alain Krakovic, le PDG d'SNCF Voyageurs.
Je dis qu'on ne casse pas la grève, on fait ce qui me semble normal, c'est-à-dire que l'ensemble des personnels qui le souhaitent, je trouve que c'est normal que même s'ils ont des tâches fonctionnelles, des tâches RH, des tâches financières, ils aient la possibilité aussi de comprendre ce qui est le cœur du métier. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de volontaires qui souhaitent être formés. Ils interviennent pendant les week-ends, ils peuvent intervenir pendant les vacances. Et puis ils peuvent aussi nous permettre d'assurer ce plan de transport.
Quant aux revendications des contrôleurs, si la SNCF se dit prête à faire des efforts, notamment sur les plannings, en revanche, pas question d'accéder à leur demande d'une augmentation de 100 euros par mois, dans la mesure où la direction estime déjà avoir fait des efforts ces dernières années. Alain Krakovic.
Sur la question salariale, on considère que on a fait vraiment le job, puisqu'on est allé systématiquement au-delà de l'inflation, quand on regarde effectivement les augmentations, on est à près de 20% sur 4 ans, alors que l'inflation, elle est plutôt aux alentours de 15%. Donc on considère qu'effectivement, on a fait le job.
Enfin, au niveau pratique, la direction de la SNCF indique que les voyageurs qui le souhaitent pourront modifier gratuitement leur billet ou se faire rembourser.
Hakim Kasmi et Lucien Lefebvre pour les moyens techniques.
Tous ne sont pas soignés à la même enseigne.
Tous et notamment toutes les femmes, mais aussi les personnes d'origine étrangère ou en situation de handicap sont l'objet de discriminations dans leur accès aux soins et leur parcours médical. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Défenseure des droits publié ce matin. Douleurs minimisées, refus de prise en charge, actes non consentis. En théorie, les professionnels de santé n'ont pas le droit de refuser un patient, sauf si la demande de soins ne correspond pas à leur domaine de compétence ou s'ils ont un nombre trop élevé de patients ou bien si le patient en question a déjà été violent ou insultant à leur égard. Mais dans les faits et sur le terrain, cette règle donc fait l'objet de très nombreuses entorses. Émeline Bonavent, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, le rapport détaille des discriminations subies spécifiquement par les femmes.
Oui, leur prise en charge aux urgences peut être différente de celle des hommes. Les douleurs des femmes sont plus souvent minimisées et sous-évaluées, selon Claire Hédon, la défenseure des droits, ce matin sur France Info.
Les symptômes des maladies cardiaques et des infarctus sont pas forcément les mêmes que les hommes. Mmh. Et on a tendance à leur dire, bon, vous êtes anxieuse. Est-ce que vous avez pas fait une dépression il y a quelques années? C'est probablement pour ça que vous avez des palpitations. C'est pas grave. Et on passe à côté d'infarctus pour les femmes.
En première ligne de ces erreurs de diagnostic, les femmes noires et nord-africaines à cause du syndrome méditerranéen, un préjugé raciste selon lequel les femmes racisées montreraient plus facilement leurs douleurs. Leurs symptômes sont donc moins pris au sérieux et mène souvent à une mauvaise prise en charge de pathologies graves, selon Claire Hédon.
Il y a une enquête très intéressante qui a été menée, une étude, en 2023 dans plusieurs pays, France, Suisse, Belgique et Monaco. Et quand un homme blanc consulte aux urgences pour une douleur thoracique, il a 50% de chances supplémentaires qu'une femme noire d'être considérée comme une urgence vitale. Vous voyez évidemment qu'il y a un risque en fait pour la santé dans ces cas-là.
D'après le rapport de la défenseure des droits, les patients qui déclarent une discrimination ont 14% plus de chances de renoncer à se faire soigner par la suite.
Merci Émeline Bonavent.
Sur le papier, il s'agit seulement de simplifier les démarches qui brident aujourd'hui les agriculteurs.
Sauf que la proposition de loi Duplon examinée à partir d'aujourd'hui en commission et surtout un catalogue de mesures inflammables. Pourquoi ? Tout d'abord parce que le texte prévoit de réintroduire des pesticides interdits en France depuis des années, mais pas seulement, puisque ce projet remettrait aussi directement en cause le rôle de contrôle et d'expertise scientifique dévolu aujourd'hui à l'ANSES et dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement serait dessaisie au profit d'un conseil d'orientation agricole. Alors pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Antoine Gatté, président de France Nature Environnement. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous-même, dans un communiqué, qualifiez ce texte de toxique. Qu'est-ce qui vous alarme plus particulièrement dans cette proposition de loi ?
Alors c'est la suite de la loi agricole qui est passée il y a quelques mois et qui a été sanctionnée par le Conseil constitutionnel pour plus d'un tiers de ses dispositions. Là, vous avez parlé des pesticides, effectivement, avec la réintroduction des néonicotinoïdes. Mais il n'y a pas que ça dans le texte. Il y a aussi des régressions sur la participation du public. Il y a des gros projets agricoles polluants. Il y a la présomption d'intérêt public pour des stockages agricoles d'eau. Alors que ça ne bénéficie qu'à des agriculteurs qui ne représentent que 6,8% de la surface agricole utile. Il y a des reculs de protection des zones humides. Il y a en tout cas un gros catalogue de reculs environnementaux dans cette nouvelle proposition de loi.
On a le sentiment qu'un certain, disons, immobilisme qui jusqu'ici se masquait peut-être derrière un consensus de façade en faveur de l'écologie cède aujourd'hui de plus en plus sa place à des attaques carrément frontales contre les mesures de soutien à l'environnement. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Alors oui, on a sorti, nous, un rapport il y a un peu moins d'un mois, là, sur justement les régressions environnementales, donc les simplifications des législations qui masquent, en fait, des véritables régressions environnementales. Ce qui change ces dernières semaines, notamment au Parlement, c'est que ces régressions sont de plus en plus assumées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question environnementale ne fait plus partie du programme politique du gouvernement, ne fait plus partie du programme politique du Premier ministre, et au contraire, est uniquement analysée sous une forme de backlash politique, qui est un backlash qui est uniquement politique, parce que dans l'opinion publique, les questions environnementales restent essentielles, mais qui est présentée comme étant des obstacles à l'activité économique de façon générale.
Comment expliquer ce tournant donc de ces régressions, alors même que les enquêtes d'opinion montrent plutôt une certaine constance dans la préoccupation des Français pour l'écologie et la santé ?
Je pense qu'on assiste là aux conséquences de la grave crise politique qu'on traverse actuellement. C'est-à-dire que comme on n'a pas de majorité particulière et que comme on a des problèmes de qualité de discussion des lois et des textes au Parlement, on l'a bien vu avec la loi agricole, encore une fois, qui a été sanctionnée par le Conseil constitutionnel très largement, on a des débats qui sont qui sont pas du tout conformes au rapport public, à l'état de la science, notamment sur les pesticides, on l'a dit. Et ben, dans ce contexte très difficile, chaque représentant d'intérêt privé, il va de ses relations particulières et fait passer ces petites dispositions. La loi Duplon, c'est la copie conforme des propositions de la FNSEA, donc de l'agriculture industrielle, pour faciliter son travail. Et au lieu de regarder les constats aujourd'hui de disparition de 80% des insectes dans les champs, de disparition de plus de 30 à 40% des oiseaux des champs, des conséquences sanitaires qu'ont les pollutions pesticides, du coût que ça a pour la société, eh ben on fait de la petite politique des intérêts privés immédiats et on oublie de faire de la grande politique de nos grands enjeux écologiques pour construire un monde vivable demain, quoi.
Comment l'État peut-il ne pas se désengager sur les politiques publiques favorables à l'écologie au regard de la situation budgétaire qui pèse sur les finances publiques?
Alors c'est effectivement la très bonne question. On a rencontré le Premier ministre il y a une dizaine de jours, on lui a remis sur la table le sujet des niches brunes. C'est-à-dire que l'ancien Premier ministre Michel Barnier avait parlé de la dette écologique en plus de la dette financière. Et nous, on avait aussi mis sur la table le fait qu'il y avait des milliards et des millions à gagner en arrêtant de financer des politiques qui étaient défavorables à la question environnementale. Et là, on peut aller jusqu'à entre 12 et 25 milliards d'économies, rien que sur ces politiques-là. Par exemple, on a des avantages fiscaux pour les transports maritimes, pour l'avion. Vous savez que le billet d'avion est taxé à 10% en TVA. Si on passe à 20%, on gagne tout de suite 300 millions d'euros, par exemple. Donc on a un vrai sujet ici, effectivement, sur la fiscalité brune et sur les sous qu'on pourrait gagner en mettant en œuvre les politiques environnementales, en allant chercher les sous dans cette fiscalité brune.
Une dernière question, Antoine Gattet. Depuis la démission effective, c'était il y a un peu plus d'un mois maintenant, du secrétaire général à la planification écologique, celle-ci n'a donné lieu à aucune nouvelle nomination pour le remplacer. Quels sont les effets de cette vacance, donc, à la tête d'une administration qui était directement rattachée au Premier ministre?
Mais les effets, on les voit en particulier, on va les voir à l'occasion du passage de la proposition de loi Duplomb à l'Assemblée à la fin du mois. C'est qu'on n'a plus de coordination au niveau du Premier ministre des politiques environnementales. Et là, on est sur une bataille entre ministères. Chaque ministère fait sa petite politique dans son coin et on n'a aucune coordination nationale environnementale. Et donc, on ne poursuit plus les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, les objectifs de reconquête de la biodiversité. Tous ces objectifs ont aujourd'hui disparu de l'action publique. Et c'est d'autant plus dommageable qu'on va fêter à la fin de l'année les 10 ans de la COP 21 à Paris. Et que la France va devoir expliquer pourquoi ces grands objectifs ne font plus partie de sa politique publique gouvernementale aujourd'hui.
Et on terminera par cette interrogation. Merci Antoine Gattet, président de France Nature Environnement, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
22 milliards d'euros de capitalisation, un bénéfice net en hausse de 45% l'an dernier et des résultats au premier trimestre supérieurs aux prévisions du consensus.
Oui, autant dire que l'Assemblée Générale des Actionnaires d'ArcelorMittal organisée aujourd'hui à Luxembourg devrait plutôt bien se passer. À l'inverse du sentiment partagé par les salariés français du groupe qui, eux, se demandent toujours qui fera partie de la liste noire des 636 postes que le géant de l'acier a prévu de supprimer. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Luxembourg. Les syndicats qui étaient en réunion ce matin avec le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, ont tenu à faire entendre leur voix à l'arrivée des actionnaires.
Oui, une vingtaine de salariés de la CFDT, une dizaine de la CGT venus en quart des usines de Florange de l'autre côté de la frontière. Christophe Paré y est mécanicien et représentant CGT.
C'est l'Assemblée générale des actionnaires qui gagne 0,55 centimes de dividende par action. Ils sont bien gentils, mais nous, ils nous mettent un plan social dans la gueule. Donc actuellement, ils disent tout va bien, mais on enlève des emplois. Donc à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi.
Chez tous les salariés, il y a la crainte que ces quelques 630 suppressions de postes en annoncent d'autres à venir.
J'ai encore été ce matin voir les copains sur le terrain. Les gars, ils m'ont dit, Christophe, ouais, ils m'ont dit, c'est qui le prochain? Quelle ligne va fermer? Donc nous, on n'a pas de réponse pour le moment, parce que là, ils nous ont déroulé un certain plan. Et c'est ce plan-là, on a l'impression que c'est le premier volet. Donc du coup, après, est-ce qu'ils vont tout dérouler pour fermer toute la France? On ne sait pas. C'est pour ça que l'État, à un moment, il faut qu'ils bougent leurs fesses.
L'État et le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui a parlé au syndicat ce matin, juste avant l'Assemblée Générale, échange pas du tout rassurant, selon Jérôme Baron, secrétaire de la section CFDT de Florange.
Aujourd'hui, on a l'impression que l'État est à la botte d'ArcelorMittal. On va l'aider, on va lui faire des prix sur l'énergie, on va accélérer le plan européen. Alors on est conscient de la difficulté dans laquelle la France est par rapport à d'autres marchés mondiaux. Mais aujourd'hui, on parle de sauvegarde de l'emploi.
Et c'est d'ailleurs la demande portée par les syndicats au ministre, des aides publiques pour sauver la sidérurgie française. D'accord, mais avec une conditionnalité sociale, un engagement d'ArcelorMittal à ne pas continuer à supprimer des emplois.
Merci Camille Magnard en direct de Luxembourg ainsi qu'à Johanna Grabic pour les moyens techniques. Députés et sénateurs ont trouvé un accord ce matin sur une proposition de loi de Gabriel Attal pour durcir la justice des mineurs et responsabiliser les parents des délinquants les plus jeunes. Voilà de quoi ouvrir donc la voie à l'adoption définitive de ce texte très contesté. Enfin, nouvel épisode dans le feuilleton de la Légion d'honneur attribué à Nicolas Sarkozy quelques jours après qu'Emmanuel Macron a exclu de retirer sa distinction à l'ancien chef d'État. L'avocat et ex-secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, a annoncé ce matin qu'il allait déposer un recours devant le tribunal administratif de Paris pour contester ce refus. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec un ciel le plus souvent couvert sur la majeure partie du territoire, entrecoupé de quelques éclaircies sur la moitié nord et des averses possibles au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 11 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.